Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous sommes les peuples qui avons le plus souffert de l'injustice à travers l'histoire, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit, ni politiquement, ni moralement, d'infliger l'injustice aux autres. Nous sommes à travers l'histoire le peuple qui a le plus souffert d'humiliation. Et c'est pour cette raison que nous n'imposerons jamais l'humiliation à un homme ou à un peuple. Nous avons été le peuple qui a été écarté de la scène internationale. C'est pour cette raison que nous ne participerons jamais, ni directement, ni indirectement, à tout ce qui peut priver un peuple de sa liberté et de son bonheur.
Il a certainement été l'un des plus importants acteurs de la reconnaissance de son pays par la communauté internationale, puisque c'est lui, Diallo Telli, qui au lendemain de l'indépendance de la Guinée, son pays, va œuvrer malgré l'opposition de la France pour l'accession du jeune État au sein des Nations Unies. Il est également celui qui aura construit pendant une décennie l'administration du premier instrument d'intégration continentale, l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Et pourtant, Diallo Telli, dont le sort tragique aura ému une bonne partie de l'Afrique, semble avoir été oublié de son continent. Mais chose surprenante, l'institution qu'il a contribué à créer, l'OUA, ne lui aura même pas construit une stèle. En réalité, qui est ce personnage dont le nom suscite encore aujourd'hui tant d'émotions dans la classe intellectuelle africaine?
C'est l'empereur Aliou Sélassié. Invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général.
Ce 10 juillet 1964, tout ce que l'Afrique nouvellement indépendante compte de dirigeants est réuni au Caire pour un sommet extraordinaire consacré au Congo Léopoldville. La première véritable assemblée générale de l'Organisation de l'Unité Africaine née un an plus tôt. Fruit d'un compromis et de longs conciliabules entre les modérés, attachés à l'unité progressive du continent, et les révolutionnaires, partisans d'une fédération immédiate. Au cours de ce sommet, l'on a adopté plusieurs résolutions, notamment celles réclamant la libération des leaders anti-apartheid, parmi lesquels Nelson Mandela. On a également adopté le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et puis, on a examiné les conflits frontaliers opposant le Togo au Ghana et la Haute-Volta au même Ghana. Mais l'on est surtout parvenu enfin à élire un secrétaire général pour l'organisation. Diallo Telli va donc avoir la charge de diriger l'OUA.
Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine. De m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation de l'Unité Africaine sans solliciter ni accepter dans l'accomplissement de mes devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. De m'abstenir de tout acte incompatible avec ma situation de fonctionnaire international responsable envers la seule organisation de l'unité africaine. Enfin, de ne m'inspirer dans l'exercice de mes fonctions que les dispositions de la Charte de l'unité africaine et du statut du secrétariat général, tels qu'ils ont été approuvés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je le jure.
À partir de ce jour de juillet 1964, le monde entier découvre ce jeune homme de 39 ans qui va désormais symboliser la diplomatie africaine tout entière. Qui est-il? D'où vient-il?
<t'->
C'est à Porédaka, petite localité en plein cœur du Fouta Djallon, que naît Boubacar Diallo Télé en 1925. Avec son père, Diallo Modi Kindi, éleveur nomade, peul sans le sou, il n'aura qu'une relation très très lointaine. Il faut dire qu'il n'est pas souvent là. Il va d'ailleurs abandonner sa famille pendant plusieurs années pour s'installer en Haute-Volta voisine. On le croit mort. C'est avec sa mère, Diallo Kadidiatou, femme très respectée et pieuse, qu'il a une relation particulièrement forte. C'est elle qui va lui rajouter le nom de Télé, qui est un arbre vénéneux de la région du Fouta Djallon. Il faut dire que dans son premier mariage, Kadidiatou a eu une fille. Et depuis qu'elle s'est mariée avec Diallo Modi Kindi, elle a eu 3 enfants qui sont presque aussitôt décédés. C'est donc pour conjurer le sort, pour protéger son enfant contre les esprits, qui selon elle et selon la tradition africaine, ont mangé les précédents, qu'elle lui rajoute le nom de Télé, qui est donc un arbre vénéneux. Elle ne s'arrête pas là. Elle l'appelle également Méli, ce qui signifie poison en peul. Il est donc doublement dangereux, pas comestible pour les esprits malfaisants. Mais elle est la seule à l'appeler Méli. Boubacar Diallo Télé commence dès l'âge de 6 ans par l'école coranique, puis l'école primaire de Porédeka. Brillant élève, il va quitter son village sous les encouragements du chef de canton qui l'a remarqué pour poursuivre ses études dans la ville de Mamou. Il habite dans une vaste famille malinquée. Malgré des résultats brillants, Diallo Télé n'obtiendra pas le baccalauréat, simplement parce que dans cette période, on n'organise pas encore cet examen en Guinée. Alors, comme beaucoup de jeunes Guinéens, il va compléter ses études en quittant son pays pour aller à Dakar, à la célèbre école William Ponty de Sidi Kotane, où l'élite intellectuelle d'Afrique de l'Ouest prépare son avenir. C'est pendant qu'il fréquente cet endroit prestigieux où se côtoient les futurs dirigeants africains qu'il fait la connaissance de Kadidiatou qui deviendra plus tard son épouse.
On s'est connus à l'école. Il était à l'école normale de Sidi Kotane au Sénégal. Il faisait la série administration. Et j'étais à l'école normale de Rufisque comme institutrice. Les deux écoles étaient à peu près à 20 kilomètres l'une de l'autre. C'est là qu'on s'est connus sur des rencontres scolaires et sur des voyages pour aller en vacances entre le Sénégal et la Guinée. On passait par le Mali à l'époque. La mer était bloquée avec la guerre. C'est comme ça qu'on s'est connus et que les liens se sont établis.
Si Diallo Télé a de bonnes notes, s'il est plutôt un brillant sujet comme disent ses professeurs, il ne peut malheureusement poursuivre son cursus scolaire. Sa famille n'a pas les moyens pour subvenir longtemps à ses besoins. Il est donc obligé de quitter William Ponty. Nous sommes en 1946 et il n'a que 21 ans. Il va tout de même décrocher un emploi dans les services généraux du gouvernement général de l'Afrique occidentale française à Dakar. Kadidiatou Diallo Télé s'en souvient.
Il a commencé à travailler et il a rencontré comme patron au travail Alioune Diop du Sénégal qui travaillait au gouvernement général avec lui. Et Alioune Diop lui a proposé d'abandonner le travail et de se remettre aux études étant donné les possibilités qu'il avait découvertes à lui. Donc, Alioune Diop l'a encouragé à reprendre les études. Et il a fait le lycée à Dakar. Il a fait ses 2 baccalauréats qu'il n'avait pas à l'école normale parce qu'on ne les faisait pas. Et après le baccalauréat, il est rentré au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et il a fait préparation des grandes écoles et il est allé en droit. Il a fait en même temps le lycée Henri IV où il a fait histoire.
En réalité, lorsqu'il arrive en France, il veut obtenir tous les diplômes possibles. Sa soif d'apprendre l'amène à embrasser de nombreux domaines. C'est également le moment à Paris du foisonnement des idées panafricanistes, des débats sur l'avenir du continent, sur la culture noire, soutenus par des personnalités de premier plan comme le Sénégalais Alioune Diop, qui avait créé quelques années auparavant le mouvement Présence africaine. C'est aussi le moment de la publication de l'ouvrage « Nation, nègre et culture » de Cheikh Anta Diop qui réhabilite la culture africaine en démontrant son ancienneté ainsi que la vigueur et l'étendue de son influence. Une thèse qui va ragaillardir et redonner confiance aux jeunes intellectuels subsahariens qui se réconcilient ainsi avec leur histoire. Octobre 1951, Diallo Télé, qui vient d'épouser Kadidiatou Diallo, entre comme major de sa promotion à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il a 26 ans. Mais contrairement à la plupart de ses camarades qui préfèrent l'administration générale, il choisit le droit. Est-ce qu'il vous a expliqué, Madame Kadidiatou Diallo-Telli, les raisons de ce choix? Pourquoi le droit?
Il a pensé que le droit le menait à la justice et c'était beaucoup moins d'influence de ses patrons, de l'administration. C'était beaucoup plus libre comme travail que l'administration.
En 1953, il sort donc de l'école de la France d'Outre-mer nanti de son diplôme de magistrat, mais aussi d'un autre trophée. Tierno Diallo-Telli.
Moi, je n'ai le jour de sa soutenance de thèse de doctorat en droit, le 5 janvier 1953, à Fontainebleau, en France.
Madame Kadidiatou Diallo-Telli.
Il a été d'abord muté comme substitut du procureur à Thiès, au Sénégal.
Un bref passage à la tête de l'administration judiciaire à Thiès, au Sénégal, ne tarde pas à le faire remarquer du commissaire pour l'Afrique occidentale, qui s'attache les services du jeune magistrat en qualité de chef de cabinet. Il va très rapidement se retrouver nommé secrétaire général du Grand Conseil de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais l'heure du choix ne va pas tarder à sonner. Le général de Gaulle effectue une grande tournée en Afrique dans les pays francophones pour inviter les populations à voter oui au référendum en faveur du statut de la communauté qu'il propose. Une formalité presque, compte tenu de la docilité des différents dirigeants au pouvoir. Les résistants, les nationalistes, ayant été presque partout matés par l'armée française. C'est donc en toute confiance qu'il arrive ce matin d'août 1958 dans le petit palais du gouverneur de Conakry. Il doit y tenir un discours pour exhorter les populations de Guinée à se rendre massivement aux urnes le 28 septembre. Mais avant lui, un jeune militant, un des leaders locaux du PDG, le Parti démocratique de Guinée, Sékou Touré, doit tenir un discours. Erreur.
Dans la liberté, à la richesse, dans l'esclavage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. En vue de bâtir une communauté franco-africaine solide et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou d'autres causes de dépersonnalisation et d'indignité. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous font choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. La qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans dupérie. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste.
Affront suprême. Le général de Gaulle, piqué au vif, surpris, décide de répondre du tac au tac, d'oublier le texte de son discours. La colère du général est perceptible. Il ne peut la contenir.
Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend.
Thank you. nourriture est consommée entre la France et la Guinée. D'autant plus que le 28 septembre 1958, la population guinéenne va voter non au référendum pour la communauté. De Gaulle, vexé, ne peut que s'incliner. La Guinée devient le premier pays francophone indépendant d'Afrique noire. L'indépendance acquise, le général de Gaulle décide de punir le jeune insolent. Il leur donne de rapatrier les Français qui repartent en emportant avec eux tout ce qu'ils peuvent, jusqu'au fil électrique. Il faut que Sékou Touré sente vraiment les conséquences de son choix. Passé les premiers moments d'euphorie qui ont suivi cette accession à la souveraineté internationale, les autorités guinéennes doivent affronter la réalité. Les caisses sont vides. André Touré, épouse de Sékou Touré.
Il a demandé au peuple, il dit, voilà, nous ne méritons rien de rien, puisque les caisses ont été vidées. Et je demande à chacun de payer l'impôt d'avance. Malgré qu'à l'époque, les gens étaient très pauvres, mais ils ont accepté de payer l'impôt.
Diallo Télé, pendant le référendum, était en vacances en France. Donc, il n'a pas voté au référendum. Et malgré tout, quand la Guinée a pris son indépendance, Diallo Télé n'ayant pas voté du tout, ni au Sénégal où il travaillait, ni en Guinée, il a quand même décidé de rentrer en Guinée quand la France a décidé de retirer tous les Français de la Guinée. Vous savez qu'à l'époque, la Guinée n'avait que deux magistrats guinéens. Donc, il a décidé de rentrer et de donner un coup de main dans la gestion du nouvel État. Il est passé à Dakar, démissionné au Grand Conseil, où il était secrétaire général. Il a rejoint la Guinée, où au lieu de le mettre dans la justice qui était son domaine, on a préféré l'envoyer comme représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies.
Belle aventure pour ce brillant intellectuel qui va affronter dans le palais de verre de New York la France du général de Gaulle qui n'a toujours pas digéré l'insolence du président Sékou Touré. Derrière les tours de Manhattan, l'ONU, le rêve de tout État fraîchement indépendant. Sékou Touré tient à y faire rentrer la Guinée. Mais pour y accéder, il faut contourner la France qui menace même d'utiliser son droit de veto. Diallo Télé a la délicate mission de résoudre cette équation. Mission périlleuse lorsque l'on sait qu'il n'est pas vraiment un intime du président guinéen. Nous allons nous en rendre compte dans la seconde partie de cette série d'émissions que nous lui consacrons, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Suite de notre série consacrée à Diallo Télé, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA.
Le problème des mercenaires, est, je dois le reconnaître, est actuellement la forme la plus agressive du néocolonialisme.
1958. Alors que gronde un peu partout en Afrique francophone un vent de nationalisme, de liberté, amplifié par la crise en Algérie, le général de Gaulle, qui n'a pas l'intention de donner tout de suite leur indépendance à ces territoires qui l'ont soutenu dans la guerre contre le régime nazi, décide d'entamer une tournée pour proposer aux populations de voter en faveur du oui pour le référendum de communauté qu'il leur propose. Un statut un peu particulier qui les garde au sein de l'Union française en leur accordant quelques prérogatives supplémentaires. Un processus qui va peut-être leur permettre d'accéder plus tard à l'indépendance. L'homme du 18 juin 1940 qui sillonne l'Afrique n'éprouve aucune réelle difficulté à convaincre les dirigeants de tous ces territoires puisqu'ils étaient tous acquis à Paris. Les nationalistes, très souvent baptisés maquisards, ayant été tous écartés des affaires. Lorsque son avion atterrit à Conakry, le général de Gaulle s'attend à une étape ordinaire où le leader local va exhorter les populations à voter en faveur du oui au référendum et où tout va se terminer par des tam-tams et des danses. Il n'a pas pris le temps de lire le discours du leader du PDG, le Parti démocratique de Guinée, Sékou Touré, qui prend la parole.
Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Notre option fondamentale, et à elle seule, conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. En vue de bâtir une communauté franco-africaine solide, et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou d'autres causes de dépersonnalisation et d'indignité. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous font choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. La qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans duperie. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste.
Piqué au vif, le général de Gaulle répond sur le même ton au peuple de Guinée qui applaudit son leader.
Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande. La communauté franco africaine. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend.
Ce discours signe en réalité la rupture de la France avec la Guinée, puisque le 28 septembre 1958, lorsque la population vote en faveur du non au référendum et accède ainsi à l'indépendance, le 2 octobre de la même année, la France annonce sans tarder qu'elle retire son administration et suspend ses crédits. Elle rapatrie tous ses fonctionnaires qui partent en emportant avec eux tout ce qu'ils avaient installé dans le pays, même les câbles de téléphone. Le jeune État, fraîchement indépendant, doit maintenant faire face à la réalité. Les caisses sont vides. Mais le courage de Sékou Touré a attiré sur la Guinée la sympathie de tous les intellectuels africains qui voient en lui l'exemple, le modèle du panafricanisme. Ils affluent en Guinée, ils y effectuent même des pèlerinages. C'est dans ce contexte euphorique que Diallo Télé, qui est à ce moment-là secrétaire général du Grand Conseil de l'AOF, l'Afrique occidentale française, basée à Dakar, décide, le 24 octobre 1958, de rédiger et d'envoyer sa démission au ministre de la France d'Outre-mer, Bernard Cornu-Gentil. Une lettre où il écrit notamment ceci. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que des raisons de haute conscience morale que vous comprenez aisément, j'en suis sûr, m'ont amené à me mettre au service de la Guinée, mon pays natal. Diallo Télé rejoint donc la Guinée.
Vous savez qu'à l'époque, la Guinée n'avait que deux magistrats guinéens. Donc, il a décidé de rentrer et de donner un coup de main dans la gestion du nouvel État. Il est passé à Dakar, démissionné au Grand Conseil, où il était secrétaire général. Il a rejoint la Guinée, où au lieu de le mettre dans la justice qui était son domaine, on a préféré l'envoyer comme représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies.
Un poste clé puisque le rêve de toute nation fraîchement indépendante est d'accéder à l'ONU, d'être reconnu par la communauté internationale. Sékou Touré accorde une importance capitale à cette accession au sein des Nations Unies. Jeune fonctionnaire qui arrive à New York avec pour mission de faire rentrer son pays dans la tour de verre de Manhattan, même s'il a fait ses classes avec certains des diplomates qu'il croise dans les couloirs de l'ONU, doit faire face à un obstacle de taille. La France est opposée à son entrée aux Nations Unies. Elle menace d'user de son droit de veto pour lui barrer l'accès. Il faut dire qu'à cette période, un État admis à l'ONU était reconnu comme définitivement indépendant et membre de plein droit de la communauté internationale au sein de laquelle il pouvait désormais s'exprimer en son nom et sans retenue. Pendant plus de 2 mois, la France use de tous ses contacts, de toutes les astuces pour empêcher la réalisation de ce projet. Mais avec l'aide de quelques diplomates qui y ont pris en sympathie Diallo Telli, notamment ce que l'on a baptisé le groupe des pays afro-asiatiques, et le précieux appui de l'ambassadeur Chapman du Ghana, le 12 décembre 1958, la Guinée va devenir, au cours d'un vote auquel la France s'abstient, le 82e État membre des Nations Unies. Diallo Telli prend pour la première fois la parole devant l'Assemblée Générale et occupe sa place à côté de la délégation ghanéenne. Jusque-là, il était dans le sillage, dans l'ombre protectrice et discrète de l'ambassadeur Chapman du Ghana. Son président, Sékou Touré, peut le féliciter pour le brio avec lequel il a mené cette mission. Le jeune Diallo Telli lui a permis de briser son isolement. Diallo Telli va rapidement devenir un acteur, un militant de la cause du tiers-monde au sein des Nations Unies. En février 1959, il présente un projet de résolution recommandant l'organisation d'élections libres dans les territoires sous tutelle, c'est-à-dire le Togo et le Cameroun. Au mois de juillet de la même année, il monte au créneau pour condamner la politique de reconquête coloniale en Algérie et proteste contre les essais nucléaires qui se déroulent au Sahara. Il se révèle rapidement un vrai ténor et la délégation guinéenne dont il est le patron devient une véritable cellule de réflexion d'une grande efficacité dont l'influence se fait sentir dans tous les secteurs décisifs de l'ONU. C'est probablement ce qui va amener le secrétaire général Dag Hammarskjöld à le nommer membre du comité consultatif de règlement de la brûlante crise congolaise. Diallo Telli se trouvera au centre de toutes les discussions officielles, prenant des contacts personnels avec tous les personnages concernés. Il entretient des liens très très forts avec le nationaliste Patrice Emery Lumumba. Si au sein des Nations Unies, Diallo Telli est très apprécié, en interne, il ne bénéficie toujours pas de la confiance des dirigeants de son pays. Sékou Touré se méfie de lui et lui mesure sans cesse son appui. Quelques mois seulement après son accréditation, le 24 décembre 1959, à la veille de l'ouverture de la session de l'Assemblée Générale à laquelle Sékou Touré tient à assister lui-même, à la surprise générale, il nomme Sori Kaba ambassadeur auprès des Nations Unies. En fait, Diallo Telli va rester en place jusqu'au 30 juin 1960, mais il est en disgrâce. Resté cependant ambassadeur aux États-Unis, Diallo Telli sera toujours membre de la délégation guinéenne, mais n'aura plus le titre de représentant permanent. Il sera donc théoriquement écarté pendant les assemblées générales de 1959 et 60, au cours desquelles Sékou Touré fut présent.
Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples, c'est une aide fraternelle qui permet à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde, lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde.
Chaque visite du président guinéen ou de celui de son demi-frère Ismaël Touré, avec qui Diallo Telli avait eu quelques différends au moment où ils étaient étudiants en France, correspond à une tentative d'effacement du diplomate. Le 1er mars 1961, Diallo Telli est à nouveau nommé ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations Unies. Il cumule cette fonction pendant quelques mois avec celle d'ambassadeur auprès du gouvernement américain. À la 17e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre en septembre 1962, il est élu vice-président de l'Assemblée générale. Il voit donc traiter les dossiers les plus brûlants qui se bousculent au sein de l'ONU. Il fait voter, le 6 novembre de la même année, la création du comité spécial contre l'apartheid. Il en deviendra le président l'année suivante.
Monsieur le secrétaire général, chers collègues, ce n'est pas sans une profonde émotion que je me suis installé tout à l'heure à ce siège, invité non seulement à participer, mais à présider les débats d'un organisme de l'importance du nôtre et qui a mission de rechercher une solution à la politique d'apartheid, l'une des plus graves tragédies que connaît le continent africain et par-delà ce dernier, toute la communauté internationale. Aussi, je voudrais que mon premier mot soit pour exprimer ma très sincère gratitude à vous tous sans distinction, chers amis, pour le très grand honneur que vous venez de me faire en m'élisant à l'unanimité à la présidence de ce comité spécial.
Diallo Telli va prendre très à cœur cette tâche puisqu'il conduit à Londres l'année d'après, c'est-à-dire en 1963, une forte délégation du comité spécial qui déjà élabore un projet de sanctions contre l'Afrique du Sud. C'est alors que le retentissant procès de Nelson Mandela précipite la radicalisation de la branche militaire de l'ANC. Un discours fleuve prononcé lors de la 17e Assemblée générale des Nations Unies, Sékou Touré, qui avec quelques homologues africains rêve désormais de l'unité africaine, va demander à son ambassadeur auprès des Nations Unies, qui bénéficie d'un important carnet d'adresses et d'une solide expérience dans la diplomatie, de l'aider dans la préparation de la conférence qui marquera l'avènement de l'institution africaine. Commence alors le périple africain qu'il va effectuer dès 1963 à travers l'Afrique. Il parcourt le continent avec Sékou Touré. Le but est de réduire les dissensions, les virulentes oppositions entre les groupes dits de Casablanca, c'est-à-dire les révolutionnaires, et celui de Monrovia, les modérés. Il faut les amener à une position commune sur la question du panafricanisme. Le 25 mai 1963, l'objectif est atteint. Les chefs d'État réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, signent la charte fondatrice de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Le monde entier enregistre pour la première fois une victoire de la volonté unitaire des peuples africains. À Addis Abeba, 30 pays sont représentés, dont 27 par leur chef d'État. L'empereur Haïlé Sélassié exulte.
Les ennemis de l'Afrique prient désormais. Ils sont en train de prier pour l'échec de cette conférence. Les peuples d'Afrique prient également. Ils prient pour le triomphe du panafricanisme, le triomphe du régionalisme et du nationalisme. Il prie spécifiquement pour le triomphe de tous les groupes, celui de Monrovia, celui de Casablanca et tous les autres.
À cette conférence constitutive où la charte est adoptée, l'on va même voter les premières résolutions concernant la lutte contre l'apartheid et celle des mouvements de libération dans les colonies portugaises. Il faut maintenant chercher un secrétaire général, un éminent diplomate doublé de qualités de juriste et d'homme de culture. Sékou Touré, tout encore auréolé de son fameux nom au général de Gaulle, mais aussi du rôle qu'il a joué dans la création de cette organisation, voit son demi-frère Ismaël Touré à ce poste. Mais ses pairs ne sont pas du tout de cet avis. Il n'a pas la stature. Nombre de pays francophones appuient plutôt la candidature d'un autre intellectuel, le dahoméen Émile Derlin-Zinsou. Mais certains l'accusent d'être pro-israélien, ce qui provoque des réactions négatives de pays francophones arabes, tels la Mauritanie qui aurait pu voter pour lui. Mais c'est finalement au deuxième conseil des ministres tenu en juillet 1964 au Caire que Diallo Telli est finalement élu secrétaire général de l'OUA.
C'est l'empereur Haïlé Sélassié invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général.
Moi, Yando Sedi Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. De m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation de l'Unité africaine, sans solliciter ni accepter dans l'accomplissement de mes devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Je le jure.
Pour le juriste devenu par la force des choses diplomate, c'est le début d'une nouvelle ère qui va profondément bouleverser sa vie. Surtout que sa popularité commence à agacer son président. Sékou Touré, qui n'a pas soutenu sa candidature, ne voit pas d'un bon œil l'ascension de ce peul qui a pour ami ses homologues et qui est reçu par les grands de ce monde. Une jalousie qui risque d'être fortement préjudiciable à Diallo Télé. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série que nous lui consacrons. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Et tant qu'à vous.